Alors, l'école actuellement se trouve ici.
Bonjour. Bonjour, messieurs.
Donc, pour votre information, l'école actuellement se trouve ici. Donc, dans une zone à risque.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des différents types de risques, justement, auxquels vous êtes confrontés sur la commune?
On est confronté à tous les risques, sauf avalanche.
Effectivement, il y a peu de chance.
C'est-à-dire séisme, inondation, érosion côtière, éruption volcanique. Et en plus, on a une spécificité, donc on a un cadeau en plus, c'est qu'on a les larves. Voilà, donc on a tous les risques qu'on peut avoir dans la Caraïbe, plus le phénomène de l'art. Voilà.
Incendie de
Oui, et aussi des incendies en période de forte chaleur. Lorsque vous avez la paille qui sèche comme ça, vous avez des incendies qui démarrent parfois dans des coins qui sont inaccessibles. Et donc on a ça aussi. Voilà.
Non, depuis 2013, je travaille en Martinique et je me suis intéressée à la commune du Prêcheur parce que en fait, c'est un lieu assez étonnant qui est situé au bout du bout de la Martinique. Hein, c'est le bout de la route qui est aussi un lieu qui est concerné par beaucoup de risques naturels différents. Donc il y a le volcan, la montagne Pelée, il y a les lahars, donc c'est les coulées de boue qui dévalent périodiquement les flancs du volcan. Et puis également, puisque le village est construit vraiment sur le bord de mer, par toutes les problématiques de montée du niveau de la mer, d'érosion littorale. Donc c'est un village qui est à la croisée de beaucoup d'enjeux contemporains en matière de risques naturels et de risques typiques de l'Anthropocène. Et donc c'est un lieu qui est vraiment intéressant pour les chercheurs de ce point de vue-là. Donc c'est nous qui avons proposé du coup d'aller travailler sur la commune du Prêcheur dans le cadre du campus comme un exemple assez paradigmatique d'une question qui se pose aux Antilles, qui est celle du croisement entre des risques bien connus entre guillemets qui sont qu'on dit naturels mais qui en fait n'ont rien de naturel, puisque ce qui fait le risque de catastrophe en fin de compte c'est la rencontre entre l'exposition humaine, l'installation des villages, des communautés, et puis le phénomène naturel lui-même. Mais la catastrophe n'a rien de naturel, c'est une construction sociale, un résultat.
Les lahars, on vous a expliqué à l'observatoire ce que c'était. Mm-hmm. Donc c'est des coulées, c'est de l'eau qui entraîne des amas de roches et de cendres volcaniques, et ça forme une espèce de matière visqueuse qui glisse et qui sert presque de tapis roulant à des blocs, à des blocs volcaniques énormes. Et on les voit, ça peut faire la taille d'une maison. Et vous les voyez descendre comme ça, tranquillement. Et puis ça disparaît d'un coup. C'est-à-dire qu'on peut même pas aller là-bas et dire qu'on va les voir. C'est-à-dire que c'est emporté. Et curieusement, quand ça s'arrête, on peut traverser la rivière, on va à la mer, on ne sait pas où ils sont passés. Donc la rivière les emporte. Et cette masse est tellement visqueuse que lorsque il y a un lahar et que vous regardez la mer, vous avez la boue qui descend certainement au fond, mais l'eau est relativement claire. C'est-à-dire qu'elle ne se mélange pratiquement pas à l'eau de mer. Ça salit un peu, mais vous avez l'impression qu'à quelques mètres, il n'y a plus rien. Donc ça salit juste tout près de l'embouchure de la rivière. Mais ça ne se mélange pas, tellement c'est visqueux, ça descend au fond, mais ça ne se mélange pas, c'est pas vraiment de l'eau. C'est vraiment, ça devient une espèce de boue assez épaisse.
Et c'est l'origine des lahars, c'est la falaise sans père, c'est une falaise qui est située en amont de la rivière et qui en fait, qui s'érode assez rapidement. Et donc il y a régulièrement des effondrements sur la falaise, ça s'accumule au pied de la falaise. Et au bout d'un certain temps, ce qui s'est accumulé au pied de la falaise va être emporté par l'eau et va dévaler toute la vallée jusqu'à la mer, en passant justement au milieu du village. Et il y a eu une grosse crise de lahars en 2018. Donc ce qui est intéressant quand on s'intéresse à la question des catastrophes et de la gestion des risques de catastrophes, c'est de regarder aussi comment le village s'est organisé face à ces événements, qui étaient des événements très réguliers à cette période-là et qui ont obligé à s'organiser, à la fois en s'appuyant sur les dispositifs classiques déjà existants de la gestion des crises, mais aussi en développant des modèles un peu alternatifs, comme par exemple des guetteurs de la Hare qui vont s'installer en amont dans la rivière et prévenir le village lorsque une coulée de boue arrive. Ça pose aussi toute la question de l'articulation entre l'instrumentation scientifique installée dans la rivière, qui est donc maintenue par l'observatoire, et justement cette organisation du village qui double l'instrumentation scientifique par aussi une organisation humaine avec des guetteurs pour aller contrôler ce phénomène-là. Donc on peut se poser plein de questions, on peut se poser la question de comment est-ce que les populations ont développé une connaissance du phénomène. Par exemple, ils nous parlent beaucoup du bruit, ils entendent les lares descendre la montagne, on parle de la rivière qui descend la montagne. Ce qui est évident aussi sur le terrain lorsqu'on discute avec les gens, c'est l'impact en fait de ces phénomènes sur leur vie quotidienne, avec des personnes par exemple qui sont très anxieuses dès qu'il pleut, avec des signes un peu un peu traumatiques, hein, de traces traumatiques de ces types d'événements. C'est des gens qui savent qu'ils vivent dans une zone à risque, exposée. Et quand la rivière descend, on ne sait jamais si elle va descendre sur cette partie du village ou si elle va rester dans le lit de la rivière. Donc il y a quand même toute une problématique qui est très intéressante sur la manière dont on vit avec une épée de Damoclès sur la tête et dont on s'organise. Face à ce risque, justement, le village a aussi commencé à réfléchir sous l'impulsion du maire Marcelin Nadeau, qui est maintenant député de Martinique, à un plan d'adaptation. Donc en prenant en compte à la fois ces coulées de boue, mais aussi le fait que l'eau monte à cause du réchauffement climatique, il y a une érosion de plus en plus forte sur le littoral, le village est coincé entre la mer et le flanc de la Pelée. Et donc une des solutions qui a été explorée et qui a été présentée longuement par Marcelin Nadeau pendant l'après-midi, c'était justement de déplacer une partie du village pour sortir de la zone à risque. Qui pose là aussi tout un tas de questions extrêmement intéressantes d'un point de vue sociologique. Comment est-ce qu'on déplace des gens ? Vous avez par exemple ici des gens qui vivent là depuis des décennies, qui ont construit leur maison pour accueillir leurs enfants, donc des grandes maisons, qui ont beaucoup de mal à imaginer quitter pour de petits appartements. Elles perdent beaucoup dans ce déplacement. Donc ça pose beaucoup de questions, finalement, ces solutions-là. Et ça résonne avec toutes les questions qu'on peut se poser sur les risques sur les littoraux métropolitains, qui vont probablement obliger à un moment donné à réfléchir aussi à des déplacements de communes. Donc, de ce point de vue-là, le Prêcheur est quand même un lieu assez exceptionnel pour réfléchir à ces questions.
Vous avez le vieux clocher derrière. Vous avez vu la pointe derrière, c'est le vieux clocher. Et c'est l'aire de regroupement en cas de tsunami. Donc c'est là que normalement on est censé évacuer, mettre la population de cette zone à l'abri. Et c'est dans un quartier qui se trouve au-dessus de cette zone qu'on va construire justement l'école refuge et on va refaire ce quartier carrément. Voilà.
Allez, ça va pas être très long.
Alors, pourquoi l'école est exposée? C'est parce que la rivière n'est pas loin. Et pour ceux qui voulaient monter au gué, lorsque il y a des coulées de boue et que le lit de la rivière est obstrué, la rivière est déviée et l'eau peut passer ici. Il est arrivé qu'on ait de l'eau devant la maison. Voilà, donc...
D'ailleurs.
C'est pas. Alors pour l'instant c'était de l'eau.
D'accord.
Donc on a eu des coulées d'eau un peu boueuse, mais c'était pas les lards, parce que si le lard traverse là, ça casse les maisons carrément.
Ouais, ouais.
Donc pour l'instant on a eu de l'eau. Donc ça veut dire que toute cette zone est dans une zone à risque, toute cette partie là.
Et donc en 2018, il y a eu un lard qui avait débordé un peu de l'eau.
Oui, qui avait débordé et dans les quartiers là, on a eu de l'eau, de la boue, etc. Thank you.
mais jusque dans la rivière aussi, c'est pas ça?
Oui.
Emporté le pont.
Le pont. Je vais vous montrer une photo justement du pont, oui. De l'ancien pont. Oui. Et c'est la raison pour laquelle on a demandé le pont que vous voyez actuellement, parce que le pont était un pont submersible et les blocs de pierre qui arrivaient étaient énormes et ça cassait le tablier du pont. Donc chaque fois, on avait un pont qui était abîmé, il fallait refaire et on a eu une fois un bloc de pierre de 7 mètres pratiquement. Et même lors des dernières coulées de boue, la boue touchait l'actuel pont. Tellement le niveau était monté. Voilà. Donc on va traverser. Donc aujourd'hui, on a une belle place avec un beau pont, mais c'était pas comme ça avant. Donc vous aviez une partie du bout à partir de la poste, ça descendait au niveau de la rivière et donc c'était complètement plat jusqu'au quartier des Abîmes. Donc, ils ont voulu à un moment refaire ce pont à l'identique et la population s'est opposée parce qu'elle estimait que ce pont ne présentait pas suffisamment, ne les protégeait pas de la rivière, surtout qu'ils voulaient abaisser encore le niveau des berges pour pouvoir refaire ce pont. Donc, ils ont exigé qu'on fasse un pont suspendu pour être sûr de pouvoir traverser et ne pas être isolé. Donc, voilà cette rivière, vous la voyez calme. Gentille, elle est belle, l'eau est certainement très fraîche, mais quand ça déborde, vous avez de la boue qui monte pratiquement parfois au niveau du pont là. Et ça éclabousse la route là.
Le principal enseignement pour des chercheurs spécialistes, c'est que quand on se pose la question du développement d'un territoire face aux enjeux de l'Anthropocène, on ne peut plus penser de manière hyper spécialisée avec les volcanologues qui étudient le volcan, ceux qui vont travailler sur l'érosion côtière, ceux qui vont travailler sur le risque technologique avec la SARA. En fait, on est obligé de penser l'ensemble pour penser des solutions qui puissent être utiles en fait, pour le développement du territoire. Donc on ne peut pas continuer à réfléchir seulement de manière spécialisée. Et c'était un des enjeux du campus, c'était de montrer, d'expériencer ça en fait au travers du terrain. Que d'un lieu à l'autre, les questions non seulement elles seraient, enfin, les mêmes questions se posent sur différents lieux, mais en plus à l'échelle de ceux qui gèrent ce territoire, donc à la fois les habitants, mais aussi leurs représentants élus et l'État. On ne peut pas découper les questions en petits morceaux comme ça et réussir à trouver des solutions qui fonctionnent. Et donc voilà, et le prêcheur était intéressant de ce point de vue-là parce que c'était plutôt le volet risque naturel, qui est un volet peut-être pensé comme classique, mais qui finalement n'a rien de classique dans la mesure où il est très actuel, où il n'a rien de naturel, et où du coup finalement on est obligé de le repenser aujourd'hui en le revisitant par rapport aux autres questions que pose l'Anthropocène en matière économique, en matière sociologique, de pollution, etc.
Donc normalement, si on respecte les consignes, une fois l'école-refuge construite, nous devrions casser ces bâtiments.
Ah oui.
Parce que dans la charte pour les fonds baronniers, c'est-à-dire que si vous estimez qu'un lieu ne peut pas être occupé et présente un risque, vous devez le casser. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour autre chose.
Et donc, ce serait rendu à la nature, c'est ça?
Nous sommes en train de négocier avec eux. Parce que nous sommes une petite commune, nous avons peu d'espace public où on peut recevoir, etc. C'est voir comment on peut transformer. On ne mettra plus des enfants, parce que c'est un risque trop important, mais voir comment on peut transformer cet espace, peut-être en atelier d'artisanat ou des choses comme ça. Voilà. Okay. On est fait de la mer, ça peut être aussi des lieux, des petites boutiques, des choses légères.